Les chroniques nature d'Environnat sur Radio Pont.
Bonjour, je suis Jérôme de l'association Environnat. Avec ces nouvelles émissions sur Radio Pont, on va vous emmener rencontrer et mieux connaître la nature autour de vous. Bonjour à tous, c'est Jérôme de l'association Environnat. Pour cette troisième émission, je voulais inviter Barbara Monroe qui travaille au SYMBASS, le syndicat de bassin versant de la Seine. On va discuter un petit peu de la Seine, de ses marais et de ses projets.
Merci Jérôme de m'avoir invité à cette émission.
Alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement ce qu'est le SYMBASS et un petit peu aussi l'émission particulière que tu as avec Natura 2000 ?
Oui, donc le syndicat mixte du bassin de la Seugne, donc le SYMBASS, il gère l'ensemble du bassin versant de la Seugne, donc de sa source qui est située à Montlieu-la-Garde, jusqu'à sa confluence avec la Charente, donc en amont de Saintes. Et donc nos principales missions, c'est de gérer l'ensemble de ce réseau hydrographique et aussi de limiter les inondations. Donc pour cela, en fait, on a un principal outil qui est le programme pluriannuel de gestion, donc où on va pouvoir en fait mener des actions sur l'ensemble du bassin versant de la Seugne pour atteindre le bon état de nos cours d'eau et préserver aussi et limiter surtout les inondations. Donc juste pour faire un petit point sur le bassin versant de la Seugne, donc c'est un bassin qui est situé sur deux départements, Charente-Maritime et celui de la Charente, qui est réparti sur 113 communes. Et donc on gère à peu près 600 km de cours d'eau principal et secondaire.
Donc dans ces cours d'eau, il y a la Seugne, mais il y a bien sûr tous les petits affluents aussi qui vont vers la Seugne.
Effectivement, il y a d'autres affluents, donc des cours d'eau qui se jettent dans la Seugne. Et on connaît principalement en rive gauche la Maine, également appelée la Rochette. Et en rive droite, on a le Trèfle qui se jette dans la Seugne. Donc on gère vraiment l'entité du bassin de la Seugne.
D'accord. Dans cette grande structure de la Seugne, donc du coup, il y a une partie classée Natura 2000 dont tu t'occupes en particulier.
Effectivement, oui. Sur le bassin versant de la Seugne, il y a 4 sites Natura 2000. Et le SYMBASS a décidé en 2019, en fait, de prendre une compétence supplémentaire et donc de gérer l'un des sites Natura 2000, qui est celui de la haute vallée de la Seugne en amont de ponts et affluents. Donc en fait, c'est la Seugne de sa source, donc de Montlieu-la-Garde, jusqu'à Pont, avec du coup les principaux affluents, donc comme j'ai cité précédemment, la Maine, le Trèfle, et d'autres petits sous-affluents que l'on va gérer. Et donc voilà, ce site-là est géré depuis 2019, et avant, en fait, il n'y avait pas d'animation sur le site Natura 2000, donc c'est pour ça que la population, les riverains, n'en avaient pas nécessairement trop entendu parler.
Donc du coup, pourquoi ce secteur de la Seugne, il a été choisi Natura 2000? Est-ce qu'il y a des particularités? Est-ce que du coup, il y a une biodiversité?
Oui, c'est un site qui est vraiment très riche. Hein. Donc le site Natura 2000, il est réparti sur 65 communes. Il fait à peu près 4300 hectares. Donc en fait, c'est la plaine alluviale de la Seugne. Hein. Donc c'est le réseau hydrographique et en fait le lit majeur. Donc les parcelles qui sont en gros situées à côté du cours d'eau que l'on va gérer. Et effectivement, en fait, si cette zone a été classée Natura 2000, c'est parce que donc il y a des espèces, faune, flore, qui sont à préserver et aussi des habitats, donc des milieux naturels, qui sont également à préserver. Et donc, ce sont des habitats et des espèces dites d'intérêt communautaire, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu à l'échelle européenne de préserver ces milieux-là. Parce que Natura 2000, en fait, c'est un réseau européen de sites naturels, qu'ils soient terrestres ou marins. Et l'objectif premier, c'est de maintenir dans un bon état de conservation et de préserver donc certaines espèces.
D'accord. Et c'est vrai que moi, quand je vais sur le terrain, dans ces secteurs, l'hiver, on voit que, de toute façon, toute la vallée est inondée. Moi, du coup, on parle souvent de dérivés. Ça a l'air d'être le nom local, justement, pour ces zones de débordement. Et donc, du coup, c'est ce qui a sûrement aussi joué un rôle de préservation de la vallée. C'est des zones qui ne sont pas habitées, qui sont naturelles, enfin, du coup, qui sont, comme il y a de l'eau partout l'hiver, qui n'ont jamais été trop envahies, on va dire, par l'homme.
Effectivement, on retrouve, des zones humides hein, sur le territoire. des zones qui sont temporairement inondées, gorgées d'eau, ou durant une bonne partie de l'année. C'est effectivement important de préserver ces milieux-là. Ils peuvent prendre différentes formes. Ça peut être des forêts alluviales, des prairies humides, des zones de tourbières et autres milieux. Et du coup, ils assurent en fait plusieurs fonctions. Par exemple, des fonctions quantitatives. Donc, comme tu disais, Jérôme, c'est des zones en fait qui vont être des zones d'expansion de crues. Donc, en période hivernale, ils vont permettre de limiter les crues et donc potentiellement les inondations sur les villes que l'on retrouve principalement Jonzac et Pont, hein, qui sont en bord de cours d'eau. En période estivale, ils vont permettre en fait de soutenir les étiages, les assecs. Donc, voilà, il y a un échange qui est fait entre ces zones humides et la rivière. Et après, ils ont aussi des fonctions qualitatives. Ça va être des zones épuratoires où certains intrants en fait vont être stockés dans ces milieux-là. Et puis, bah, bien sûr, une fonction écologique, hein, parce que ces zones humides, elles sont vraiment très riches. Elles abritent une biodiversité importante et souvent rare et menacée. On peut retrouver notamment certaines fleurs que l'on peut observer, la Fritillaire pintade, ou également appelée Dame du Poitou, qui ressemble un peu à une petite tulipe mauve, qui borde justement nos cours d'eau et qui sont situés dans ces zones humides.
Oui, c'est des plantes qu'on a vues en plus cette année énormément, je trouve, au printemps dans les prairies humides. Donc du coup, c'est avec toutes ces fonctions, on peut aussi symboliser un peu ces zones humides comme des éponges. Du coup, l'hiver, elles vont absorber l'eau, elles vont retenir un petit peu l'eau. Et du coup, l'été, ces éponges vont un peu se vider pour restituer. Voilà,
ouais, c'est ça. Tout à fait. Ça.
Et donc du coup, il y a cette végétation. Il y a aussi, on voit en ce moment, il y a les rennes des prés qui fleurissent. Il y a pas mal de choses dans ces zones humides. Il y a aussi toute une faune animale qui est aussi à préserver, que tu suis en particulier dans ces zones.
Effectivement, oui, il y a une faune qui est assez riche et qui est liée en fait à ces milieux-là. On peut parler notamment de certains mammifères, des petits mustélidés notamment, tels que la loutre d'Europe, qu'on voit à Pont aussi, sur la Seugne, ou un petit affluent de la Seugne qui s'appelle la Soute. Donc par exemple, cette espèce-là, la loutre d'Europe, c'est une espèce qui est protégée et qui a été impactée en fait parce qu'elle a été chassée à une certaine époque, notamment par rapport à sa fourrure. Et à l'heure actuelle, en fait, on la revoit de plus en plus sur nos bords de cours d'eau, et on peut la suivre notamment avec des caméras que l'on pose, que ça soit à l'association Environnat ou au Saint-Bas, qu'on pose en bord de rivière. Et puis du coup, de certaines fois, on a des petites vidéos de loutres d'Europe ou ces petits loutrons qui est assez sympathique à voir, quoi.
Oui, oui. C'est un animal, voilà, qui est assez joueur après quand on l'observe. Alors du coup, l'observation directe, ce qu'il faut dire, c'est quand même, c'est très très compliqué, hein. C'est très très rare de les observer. Par contre, justement, pour mettre les pièges vidéo, les choses, on les met pas au hasard. En fait, c'est facile à repérer. Ces marques de territoire, puisque la loutre, elle fait des crottes qu'on appelle les épreintes et qu'elle pose sur les cailloux et qu'on repère assez facilement.
Ouais, c'est vrai que ces épreintes sont facilement reconnaissables, en fait. C'est des déjections qui font quelques centimètres, hein, 3-4 centimètres, assez longiformes. Et puis, en fait, dedans, on va pouvoir observer notamment des arêtes de poissons ou des restes d'écrevisses, parce qu'en fait, c'est une espèce qui est carnivore. Elle est aussi opportuniste, elle va manger plusieurs espèces, elle peut aussi manger des amphibiens. Mais du coup, elles sont assez caractéristiques et effectivement, on peut la suivre tout au long de la rivière. Quand on se balade en bord de rivière, on voit ces épreintes-là. Elles sont aussi une odeur en fait de poisson et de miel. Voilà.
Ça, bon, c'est particulier, c'est quand, quand on montre ça, mais c'est vrai que c'est l'odeur est pas désagréable pour une déjection. Et du coup, alors ça, c'est la loutre. On voit justement grâce à ses épreintes, avec les pièges vidéo, qu'elle est maintenant bien bien présente tout le long de la Seugne. Par contre, il y a un autre petit mustélidé qui lui est beaucoup plus recherché et plus rare, mais qui peut être présent aussi. C'est le wison d'Europe. Donc là, il y a un projet. Enfin, tu travailles en projet sur un projet européen. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots?
Effectivement, ouais, le wison d'Europe, c'est pareil, c'est de la famille des mustélidés, donc c'est une espèce qui est en danger critique d'extinction. C'est l'un des mammifères les plus menacés en France, et donc il y a un programme qui est spécifiquement destiné à cette espèce, qui est porté notamment par la LPO, où l'objet, du coup, c'est de mener des actions pour préserver cette espèce-là, et aussi d'acquérir de la connaissance pour savoir son mode de fonctionnement, comment il vit, et surtout savoir s'il est encore présent sur le territoire. Et donc, on travaille en collaboration avec ce programme d'action-là pour la préserver.
Et puis du coup, t'as déjà entendu au mois de juin pour une chronique, pour une émission aussi sur un autre animal, enfin sur une famille, puisque là il y a pas mal d'espèces, et ce sont les chauves-souris aussi qui sont recherchées le long de la Seugne pour détecter les gîtes, leur zone de reproduction et tout ça.
C'est ça, ouais. Donc il y a un inventaire actuellement qui est mené donc sur le site Natura 2000, sur les communes qui sont concernées par le site Natura 2000. Et donc ça, on fait ce projet-là avec l'association Nature Environnement 17. Et du coup, en fait, on recherche les bâtiments où certaines chauves-souris vont s'abriter, puisqu'en période estivale, c'est la période de mise bas et d'élevage des jeunes. Et donc, elles vont pouvoir s'abriter dans les vieux bâtis. Donc ça peut être des moulins, ou les vieilles granges, etc. Et donc c'est une période vraiment clé pour cette espèce. On a peu de connaissances en fait sur les gîtes estivaux et donc effectivement on a un programme de recherche pour ces espèces-là, notamment pour sensibiliser et puis communiquer sur les chauves-souris. On va réaliser le 9 juillet à Jonzac une animation qui sera gratuite. Il y aura une conférence dans un premier temps par une chiroptérologue, donc une spécialiste des chauves-souris. Puis après on ira se balader donc en bord de Seugne à Jonzac pour justement écouter les chauves-souris et savoir les reconnaître. Ça sera donc le 9 juillet à 20h30 dans la salle des fêtes rue du Château à Jonzac. Et donc n'hésitez pas à vous inscrire auprès du syndicat du bassin de la Seugne au 06 45 98 03 26 pour, si vous le souhaitez, en apprendre un peu plus sur ces espèces qui sont toutes protégées.
Et puis, comme tu le disais, c'est des espèces qui sont bien présentes dans les vieux bâtis. Donc, c'est aussi important de travailler avec les propriétaires. Enfin, du coup, c'est pas évident de les trouver. Donc, c'est l'importance aussi de, quand on observe ça chez soi, de vous le signaler, de participer justement à la connaissance de ces espèces en n'hésitant pas à vous appeler pour signaler une petite colonie, des chauves-souris dans son grenier, dans son hangar, des choses comme ça.
Tout à fait, oui. Il faut surtout pas hésiter à nous faire remonter ces informations pour que après, si vous nous le permettez, qu'on vienne se déplacer et identifier quelles espèces viennent chez vous et puis pouvoir vous donner quelques informations et puis des conseils pour les préserver, ne pas les déranger et cohabiter avec elles.
Et du coup, sur le même principe, il y a d'autres espèces aussi qui sont difficiles à voir. Il faut quand même aussi être bien présent sur le terrain, mais du moment, il faut aussi des coups de chance, et ça peut être aussi un promeneur, une personne par hasard qui va observer ça. Donc en particulier, une espèce que vous recherchez, une tortue qui vit dans la Seugne.
Eh oui, ça peut paraître étonnant, mais effectivement, on a des tortues aquatiques qui sont présentes sur notre territoire. Et c'est la cistude d'Europe. Donc, c'est des tortues qui ont en fait des points, des taches jaunes au niveau de la tête, du cou, des pattes, de la queue, et qu'on va pouvoir observer soit dans des plans d'eau, soit dans des mares, ou soit dans nos cours d'eau, la Seugne, la Maine et autres cours d'eau. Et souvent, en fait, on la voit plus particulièrement en été parce que c'est un reptile, donc en fait, elle a besoin de se thermoréguler et donc de prendre des bains de soleil. On va pouvoir notamment l'observer lorsqu'elle est située soit sur les berges d'un plan d'eau ou d'un cours d'eau, ou alors sur des branches mortes qui peuvent être laissées en bord de berge ou dans un plan d'eau. Et donc là, elles vont prendre un plaisir à prendre des bains de soleil et c'est le moment le plus facile pour les observer. Donc effectivement, là, on est aussi sur un inventaire par rapport à cette espèce parce qu'il y a très peu de données sur ces individus-là. Donc on cherche où c'est qu'elles sont localisées pour pouvoir savoir le bon état de conservation de ces populations, savoir s'il y a une population qui est importante sur notre territoire ou non. Et puis après, pouvoir mettre en œuvre des actions pour les préserver. Parce que elles vont pas tout le temps être dans l'eau. C'est des espèces qui sont semi-aquatiques et pendant une période de l'année, on peut les retrouver en fait sur des espaces terrestres parce que en fait elles pondent hors des milieux aquatiques, sur des notamment des prairies sèches ou des bords de chemin, des digues d'étangs. Donc il se peut que vous observez aussi ces espèces en vous promenant dans les bois hors des milieux aquatiques. Donc surtout, en fait, faut pas les toucher. Si possible, prendre des photos, nous l'indiquer, que ça soit au niveau du syndicat ou au niveau d'Environnat, parce qu'on travaille en collaboration, nous dire où c'est qu'elles sont présentes, et puis ça contribuera en fait à ces inventaires que l'on mène.
Voilà, oui, du coup, c'est vraiment sauf danger immédiat hein, sur une route ou dans un terrain où il y a des chiens, des choses comme ça. Voilà, il faut surtout pas y toucher. De toute façon, c'est des espèces protégées. On n'a pas le droit normalement d'y toucher. Et puis, bah, du coup, voilà, c'est normal de les voir à certains moments en dehors de l'eau. Donc, il y a beaucoup d'animaux comme ça. Les gens ont tendance à se dire, oh mince, il est loin de l'eau, les salamandres, les crapauds, des choses comme ça. Mais en fait, non, ils ont une grande partie de leur vie en dehors de l'eau. Donc, s'ils sont en dehors de l'eau, c'est qu'ils ont une bonne raison. On les remet pas dans l'eau pour rien. Sauf, je vous disais, hein, si c'est sur une route ou un danger immédiat, là, bien sûr, il faut les éloigner de la route. N'hésitez pas à le signaler, à nous appeler pour faire ces suivis. C'est un peu la période critique, hein, tu disais, quand les femelles vont aller pondre dans des prairies. Donc du coup, bah, il faut pas qu'un tracteur qui passe soit trop piétiné. Donc du coup, voilà, c'est des zones très critiques. Donc de repérer ces zones-là, c'est vraiment important pour les préserver.
Effectivement. Par contre, on a d'autres espèces hein, qu'on peut retrouver, d'autres tortues qu'on peut retrouver dans les milieux aquatiques, notamment la tortue de Floride, en fait. Là, par contre, elle est plus problématique. C'est une espèce invasive. Elle a été en fait importée massivement dans les années 90. Hein. Il y a eu des millions d'individus importés donc, de l'Amérique. Donc les gens les achetaient dans des animaleries. Sauf qu'à un moment, bah, une tortue, ça grossit. Et puis bon, on ne savait plus trop quoi en faire. Certainement qu'ils se sont dit, c'est une tortue d'eau, donc on va la remettre dans un milieu aquatique. Elle va être sans doute dans son milieu naturel, mais non. Du coup, elle n'est pas originaire d'ici, contrairement à la cistude d'Europe, et donc elle peut créer certains impacts. Donc là aussi, si vous voyez des tortues de Floride, donc elles ont des stries jaunes et également des tempes rouges. Donc si vous en voyez, n'hésitez pas à nous contacter.
Oui, c'est là l'importance d'essayer aussi de faire des photos, puisque bah, du coup, parfois, c'est pas forcément évident de faire la différence. Donc, au moment de l'observation, une photo, ça peut aider justement, nous, après, à voir un petit peu les espèces présentes. Et puis du coup, après, toujours dans ces projets où tout le monde peut apporter sa connaissance, son observation lors d'une balade, les propriétaires de bord des rivières. Il y a aussi en ce moment, ça va durer encore jusqu'à mi-juillet, peut-être fin juillet, les rosalies. Donc ça, est-ce que tu peux nous parler de la rosalie, de cette petite bête?
Oui, donc la rosalie, en fait, c'est un insecte qui n'est pas très grand, hein, qui fait quelques centimètres, hein, juste. C'est une espèce qui est très jolie. Elle est d'un bleu ciel cendré, elle a de longues antennes en fait. Donc c'est pareil, une espèce protégée qui ont permis de classer la zone en Natura 2000. Donc on peut l'observer sur une très courte période, donc de la mi-juin jusqu'à fin juillet comme l'a dit Jérôme. Et on va la retrouver essentiellement sur nos zones humides, notamment dans les forêts alluviales ou dans la ripisive, donc la végétation en bord de berge des cours d'eau, parce que en fait elle se nourrit de bois mort. Donc c'est important aussi, si vous avez du bois chez vous, de laisser un peu de bois mort au sol, parce que donc il y a plusieurs insectes qui vont s'en nourrir.
Et c'est l'importance aussi, en bord de rivière, de laisser parfois des arbres, on dit malades ou des choses comme ça, mais en fait, ils sont importants aussi pour l'écosystème, des vieux arbres têtards, des vieux arbres de bord de rivière. Et s'il n'y a pas de danger, s'il n'y a pas de risque qui tombe dans votre jardin, sur vous, ou s'ils ont une chute imminente dans la rivière, sinon on les laisse pour justement ces insectes.
Ouais. Faut avoir en fait vraiment une gestion raisonnée du milieu, puisque si en fait on met en œuvre une gestion raisonnée, différenciée, on va pouvoir accueillir une biodiversité beaucoup plus importante, avec notamment la possibilité d'accueillir toutes ces espèces protégées.
Et justement, si on est propriétaire d'un bord de rivière, comment on connaît ces bonnes pratiques, cette gestion différenciée? Est-ce que du coup, vous pouvez nous aider? Est-ce que le Simba peut aider ces propriétaires, ces personnes qui ont parfois quelques dizaines de mètres, une centaine de mètres au fond du jardin, le long de la rivière, le long du ruisseau, comment ils peuvent faire?
Alors, vous pouvez nous contacter hein, au syndicat. Nous, notre rôle aussi, c'est aussi de conseiller les riverains lorsqu'ils veulent entretenir ou mener des actions ou sur leur parcelle ou sur leur bord de cours d'eau. Donc nous, on peut se déplacer et venir à votre rencontre, effectivement, pour échanger avec vous. Mais nous avons fait autrement un guide du riverain pour justement l'entretien de la ripisive, donc de la végétation en bord des cours d'eau, où on explique du coup le rôle de la ripisive et puis comment l'entretenir avec les bonnes pratiques qui peuvent être mises en œuvre. Donc comment tailler un arbre, à quelle période, etc.
Oui, voilà. Et puis après, le bord de rivière, c'est important aussi parfois justement de laisser la végétation. Enfin, du coup, dans ce guide, on vous expliquait aussi comment tailler le bord. Est-ce que du coup, il faut faucher jusqu'au ras de l'eau ou au contraire, essayer de préserver? Du coup, pour tout ce qui est petits insectes, les libellules, on n'en a pas parlé, mais elles ont besoin de cette végétation aquatique du bord de rivière. lire, donc c'est important voilà, d'essayer de trouver des bons conseils dans ce petit guide.
Parce qu'effectivement, la répisylve, en fait, elle a vraiment plusieurs fonctions. Hein. Du coup, si il y a des arbres, des arbustes, une végétation herbacée avec des iris qu'on peut retrouver, par exemple, en bord de cours d'eau, ça va être, en fait, une zone de refuge, une zone d'alimentation pour différentes espèces, hein, que ça soit des insectes, des mammifères, des chauves-souris ou autres qui vont s'abriter dedans. Mais après, ça assure aussi un rôle pour le cours d'eau. Donc, ça va également limiter donc les crues, puisque avec la présence d'arbres, de végétation, ça va ralentir du coup ce phénomène et limiter aussi donc les inondations. Ça va jouer aussi un rôle d'ombrage au niveau du cours d'eau, parce que sur le territoire, notamment sur la Seugne, il y a une espèce floristique, la jussie, une petite fleur jaune qui se développe dans le lit de nos cours d'eau, mais qui est invasive. S'il y a de l'ombre sur le cours d'eau, elle va moins se développer, en fait, du coup. Donc, voilà, il y a vraiment plusieurs fonctions à cette répisylve, et c'est essentiel, en fait, que les bords de berge, les bords de cours d'eau ne soient pas entièrement à nu.
Voilà. Et puis bah, du coup, pour les gens voilà, qui veulent aller plus loin, qui veulent s'engager un peu plus loin, je crois que vous faites aussi des chartes, des petits contrats aussi avec les gens. Alors, les contrats, c'est peut-être un peu compliqué, mais des chartes qui permettent aux gens de s'engager voilà, concrètement pour Natura 2000.
Effectivement, oui. Donc, au niveau de Natura 2000, il y a deux outils. Donc, comme tu l'as dit, Jérôme, les chartes et les contrats. Donc, les chartes, en fait, ça va être plutôt pour valoriser les bonnes pratiques de gestion qui sont faites du coup sur les milieux qui sont classés Natura 2000. Donc les prairies, les boisements, les bords de cours d'eau. Du coup, ça va être un engagement sur une période de 5 ans, un peu comme une labellisation où on va valoriser du coup les bonnes actions mises en œuvre. Donc notamment conserver le milieu tel qu'il est, l'entretenir de manière favorable à certaines périodes. C'est pas nécessairement contraignant parce que la plupart des riverains que j'ai rencontrés sont déjà en fait dans cette démarche. C'est vraiment histoire alors de les valoriser, de les d'avoir une reconnaissance sur leurs bonnes pratiques. Et puis, on peut effectivement après aller un peu plus loin avec des contrats Natura 2000, où là, en fait, on va réellement mettre des actions en œuvre pour restaurer un milieu ou pour préserver certaines espèces. Donc là, ce sont des actions en fait qui sont financées à 100% par des fonds européens et de l'État pour les riverains, à 80% pour les collectivités, mais où du coup les actions telles que de la plantation de haies, de la restauration de prairies, de la création de mares, si vous avez envie de mener ces actions et que vous êtes dans un site Natura 2000, vous le pouvez par rapport à un contrat Natura 2000 et donc le syndicat vous accompagne de A à Z dans cette démarche.
Très bien, merci. Donc du coup, pour retrouver toutes ces informations, le site Natura 2000 Haute-Vallée de la Seugne, il a son site internet, hein. C'est hautevalleeseugne.n2000.fr. Le lien sera sur le site de l'émission, on le mettra aussi sur le site d'Environnat. Et puis du coup, on le rappelle, le 9 juillet, c'est la nuit de la chauve-souris à Jonzac.
C'est à 20h30, donc à la salle des fêtes rue du Château à Jonzac. Il faudrait donc préalablement s'inscrire pour participer donc à cette animation qui est gratuite. Donc vous pouvez me contacter au 06 45 98 03 26.
Pour nous, pour Environnat, tous les lundis, en partenariat avec l'Office de tourisme de Jonzac, on propose des sorties de découverte nature des bords de Seugne, du coup autour de Jonzac. Donc n'hésitez pas à nous appeler ou appeler aussi l'Office du tourisme, puisque c'est eux qui vont gérer la billetterie. Donc ça sera tous les lundis, une fois le matin, une fois l'après-midi en alternance, autour de Jonzac, donc pour découvrir cette belle rivière. Et puis on le rappelle aussi, en partenariat avec Barbara, on fait aussi des suivis naturalistes d'une source un petit peu de la Seugne en amont, à Soubran, sur le site des Bénissons, qui est un espace naturel sensible, qu'on appelle maintenant les échappées nature, et donc du coup sur lequel on organise aussi des sorties nature, qui elles sont gratuites puisqu'elles sont financées en partie par le conseil départemental dans le cadre justement des échappées nature. Donc pareil, n'hésitez pas à nous contacter, il y a tout l'agenda sur notre site internet et puis on fait le relais des actions aussi du Saint-Bas et en particulier des actions Natura 2000 comme la nuit de la chauve-souris. Bah, je te remercie, Barbara, de nous avoir expliqué un petit peu des choses qui peuvent parfois être un peu floues autour du Symbal et Syndicat de Bassin-Rivière, Natura 2000, c'est pas forcément évident. Bah, j'espère que voilà, tout le monde y verra un peu plus clair et puis voudra apporter sa participation justement à des inventaires participatifs sur les cistudes, sur la rosalie, sur la présence de la loutre, toutes ces petites choses auxquelles tout le monde peut participer.
Bah, merci à toi, Jérôme, pour cette invitation.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Retrouvez cette chronique sur le 97FM le lundi et le mardi à 17h50 et le vendredi à 20h et bien sûr en podcast sur le site radiopont97fm.com.